Alors, on a déjà parlé de féminisme politique avec Noura Boisouni, cette journaliste et essayiste avec laquelle on partage des moments depuis le début de la semaine. Mais au cours de notre échange, on est arrivé à parler d'un livre absolument incontournable. Selon moi, Le féminisme pour les 99% de Cynthia Arruza, Tihi Bhattacharya et Nancy Fraser. Ce livre, il débute comme ça. Au printemps 2018, Sheryl Sandberg, la directrice des opérations de Facebook, a déclaré que nous serions bien mieux lotis si la moitié des pays et des entreprises étaient dirigés par des femmes et si la moitié des foyers étaient dirigés par des hommes, ajoutant que « nous ne devrions pas être satisfaits tant que nous n'aurons pas atteint cet objectif ». Grande figure du féminisme d'entreprise, Sandberg s'était déjà fait un nom et beaucoup d'argent en incitant les femmes cadres à s'imposer dans les conseils d'administration. En tant qu'ancienne chef de cabinet de Larry Summers, ex-secrétaire au Trésor états-unien, l'homme qui a dérégulé Wall Street, elle n'en a eu aucun scrupule à affirmer que la ténacité des femmes dans le monde des affaires était la voie royale vers l'égalité de genre. Ce même printemps, une grève de militantes féministes a paralysé l'Espagne pendant 24 heures. Rejointes par plus de 5 millions de manifestants et manifestantes, les organisatrices de la Huelga Feminista ont appelé à une société débarrassée des oppressions, de l'exploitation et des violences sexistes et clamé « Nous appelons à la révolte et à la lutte contre l'alliance du patriarcat et du capitalisme qui veut nous rendre obéissantes, soumises et silencieuses ». Je disais donc que ce livre est mon incontournable et qu'il était évidemment dans la bibliothèque de Noura Boisouni aussi.
Il est dans la bibliothèque, c'est quand je l'ai lu, pareil, j'étais là genre « oh là là, mais ouais ». Tu vois, tout ce truc de… c'est ce contre quoi j'essaie de me battre aussi au quotidien. Et c'est ce qui est compliqué dans les luttes féministes. C'est Colline Charpentier qui a fait un post de blog, là, celle qui a le compte Instagram « T'as pensé à… » Tu sais qu'elle écrit un bouquin sur la charge mentale et tout, ouais. Qui là vient de mettre en pause son compte Instagram parce qu'elle pète un câble. Vraiment, elle n'en peut plus. Et elle vient d'écrire aujourd'hui un post de blog où elle parle de ça en elle aussi. Et c'est une grosse. Les gros questionnements dans les sphères féministes en ce moment, c'est à la fois la politisation du féminisme et à la fois les batailles d'ego et être une bonne féministe, tu vois, la pureté militante. Moi, c'est des choses. Depuis quasiment 3 ans, c'est des choses qui m'obsèdent, tu vois, le côté pureté militante. Il faut montrer qu'on est la meilleure féministe de toutes les féministes, tu vois. Quitte à quitte à le faire de façon complètement intéressée, par pure égo, quoi. Et elle, dans son truc, là, dans son poste, je l'ai lu tout à l'heure, elle parle justement des égos, tu vois. Elle dit, mais en fait, je me pose la question, pourquoi je fais ces trucs-là? Est-ce que c'est pour mon égo? Pour la gloire, quoi, tu vois, en disant, regardez, je suis une belle féministe. Elle pose ces questions-là. Et dans le bouquin « Le féminisme pour les 99% », moi, j'ai trouvé ça super parce que ça pose ces questions-là de pureté militante, mais ça pose aussi la question en termes politiques, notamment de ne pas penser l'individu, mais penser, tu vois, le bien commun, et surtout ne pas reproduire les erreurs du patriarcat, notamment dans tout ce qui est pouvoir politique, par exemple, et économique, et capitalistique. Donc, en fait, c'est moi, quand je disais les passages où elle parle de toute cette doctrine du lean-in, tu sais, j'ai oublié son nom, c'est horrible, l'ancienne boss de Yahoo.
Ouais.
Donc, tout ce truc de lean-in, faut imposer les femmes. Et donc, c'est en fait devenir, c'est vraiment devenir le pire de ce que tu combats, en fait. Donc, devenir des suppôts du capitalisme en prônant l'empowerment. Et ce mot me fait...
I know.
Ça et le mot sororité, les buzzwords qui me rendent folle parce que ça, tu mets tout ce que tu veux et rien dedans en fait. Et l'empowerment féminin, je fais des diatribes énervées sur Twitter parce que ça me rend dingue. T'empower, tu vois, moi les meufs qui font des conférences à 300 euros la place et qui ont des femmes de ménage qui sont payées 3 balles de l'heure et pas déclarées, tu vois, je suis en mode, mais tu vois, si les femmes qui sont à tes conférences là savaient comment ça se passe dans ta vie privée, comment tu traites d'autres femmes. Et donc là, ces passages dans ce livre-là, enfin moi, ce livre-là, je le trouvais vraiment formidable. J'étais là genre, ah, mais ouais, enfin, tu vois, je surlignais toutes les phrases.
Exact. Pareil.
C'est horrible, hein, t'es là genre, ah ouais, ça,
tu
ouais.
Cantes toutes les pages.
Ah ouais. Alors, les mots qui ne sont pas surlignés, c'était les mots. Et t'es là genre, ah, tu surlignes les phrases d'après, t'es là genre, ah ouais, en fait, j'ai surligné tout le livre. Hein. Tu vois, c'est comme une théorie, ça prouve à quel point ce bouquin est ramassé. Pareil, il n'y a pas un paragraphe en trop. Le seul truc que je reproche, c'est qu'il n'est pas facile à lire quand même. Hein. c'est vraiment, même quand t'es rompu à la théorie féministe et tout, moi, il y a des passages, j'ai réalisé 5 fois pour être bien sûr de capter, parce que je trouve ça vraiment pas très facile, pas très accessible. C'est le seul reproche que je lui ferais. Mais justement, sur reproduire ces schémas de domination qu'on reproche au patriarcat et aux hommes, c'est moche, quoi. Donc, ces femmes-là, et je donne jamais de nom, mais il y en a qui savent très bien de qui je parle, qui sont entrepreneuses, machin truc, qui prônent l'empowerment, et qui traitent leurs collaboratrices comme de la merde, en fait. Et ça, c'est pas possible, en fait. C'est qui prônent la sororité et qui embauchent que des stagiaires, par exemple, tu vois. Donc elles ont un pouvoir d'achat monstrueux, elles ont des résidences secondaires et toi, t'as 300 euros pour ton stage, quoi. Et on te dit, mais non, mais c'est bien, parce qu'en fait, tu contribues, tu vois, au débat féministe, c'est la visibilité. Non, et ça, c'est dingue, quoi. Donc ces passages-là sont ceux qui m'ont le plus marqué, et sur les luttes ouvrières aussi, parce que c'est ce qu'on oublie beaucoup, les luttes, le marxisme a oublié, t'en parlais au tout début, mais le travail de reproduction sociale non rémunérée des femmes, parce qu'on parle des ouvrières dans les usines, mais on oubliait de parler du travail domestique non rémunéré une fois qu'on arrive à la maison. Et les luttes syndicales ont toujours demandé, et j'en parle dans mon petit article Medium, là, ont toujours demandé aux femmes de s'oublier, et j'en parle dans mon article sur Slate aussi, sur ce que j'appelle la charge morale, donc la charge écolo, où on a toujours demandé aux femmes de mettre leurs revendications féministes sous les revendications économiques, sociales, environnementales, et notamment dans les luttes syndicales. Les syndicats, moi, il y a des nanas syndiquées qui me disent, mais c'est fou, quoi. Enfin, je veux dire, on nous demande de faire passer l'intérêt commun avant l'intérêt des femmes, comme si les femmes, c'était pas l'intérêt commun. Tu vois, c'est vraiment, on individualise des luttes qui sont pas individuelles.
Oui, puis on considère que les femmes, c'est une minorité, sachant que c'est la moitié de la planète. Ouais, ça, c'est alors, assez absurde, quoi.
Que la moitié, en plus. Oui,
ouais, c'est ça.
C'est qu'en fait, tu vois, c'est ça qui est formidable. Ouais. C'est que dans le sac minorité, on met les personnes racisées, donc dans les pays comme la France, hein, je parle des pays où tu vois, on est en mode les Noirs sont minoritaires, on met les homosexuels, on met les personnes trans, et on met les femmes. T'es là, mais en fait, non, vous avez pas compris un truc, c'est qu'on est plus nombreuses que les hommes sur Terre, les femmes. Donc, et on peut passer les intérêts des femmes après les intérêts entre guillemets communs. Et ce bouquin-là, je trouve très important pour remettre les pendules à l'heure justement sur ces luttes-là et sur le pouvoir, le véritable empowerment économique d'abord de toutes les femmes et pas d'une poignée d'élus qui vont reproduire les schémas de domination masculine avec leur influence politique et culturelle.
Cette reproduction de la domination sociale qui peut avoir tendance à s'imposer s'institutionnalise à travers ce qu'Aurore Coquelin appelle dans son essai La Révolution féministe un féminisme d'État. Et quand le féminisme monte dans les sphères du pouvoir, ce n'est pas toujours efficace. Cependant, nous rejoignons ici les propos tenus dans la première partie de cet entretien. Il va bien falloir que le combat passe concrètement par la politique, puisque pour atteindre l'empowerment dont parle Nora Boisouni par l'économie, il faudrait d'abord atteindre la tant convoitée et fantasmée égalité salariale. Or, dans le dernier Cash Investigation, portant justement sur le sujet, la démonstration est on ne peut plus claire. Des lois visant à atteindre une forme d'égalité entre hommes et femmes existent, oui, mais elles ne sont ni appliquées ni contrôlées. Doit-on en déduire que le féminisme politique exige une vigilance accrue ?
Oui, mais tu vois, il faut être vigilant en même temps. Pourquoi certaines lois sont appliquées et pas d'autres, quoi ? Tu vois, pourquoi est-ce que cette loi-là, elle n'est pas appliquée ? Pourquoi est-ce qu'on les bride à d'autres gens avec d'autres lois qu'on applique et c'est bien normal ? Et pourquoi est-ce que ça, par exemple, tout le monde s'en fout ? C'est là la question qu'il faut se poser, c'est dans la politisation, c'est pourquoi certains combats sont mis de côté et on dit « ouais, ça va, tu vois, mais c'est comme l'exil fiscal. Pourquoi ?» Enfin, je veux dire, c'est quand même des milliards d'euros. Qu'est-ce qui fait que on s'attaque pas à ça ? C'est pareil, pour moi, c'est vraiment le... Il y a une hiérarchisation des combats qui est faite dans la politique et on a décidé que l'écologie, le féminisme, notamment... l'exil fiscal, il faut trouver de l'argent, mais on va pas aller, d'une, on va pas taxer les riches, et de deux, on va certainement pas aller récupérer la thune des exilés fiscaux qui se la coulent douce, quoi. l'exil fiscal, c'est, enfin, tu vois, c'est pas légal, quoi. Et pourtant, Bercy, on n'a rien à secouer, visiblement. Si on part battu d'avance, c'est sûr qu'on va jamais rien faire. Hein. Mais ce que tu disais sur partager des contenus, essayer d'être pédago, donc ouvrir des comptes Instagram, tout ça, pour moi, c'est très bien parce que c'est une première porte d'entrée facile au féminisme et au genre. Mais c'est pas suffisant parce que c'est ce qu'en anglais on peut appeler aussi le slacktivism, tu vois, donc le fait d'être derrière son ordi et de liker des posts et de mettre des hashtags et de signer des pétitions. C'est ce que je dis quand je parle du colibri, pour moi c'est ce côté colibri, tu vois, c'est ah, je suis contente de moi, aujourd'hui j'ai signé 3 pétitions féministes et j'ai dit à quelqu'un un soutien et j'ai liké son post, enfin, tu vois, et c'est là genre, mais en fait qu'est-ce que je fais, quoi, qu'est-ce que je fais, ou qu'est-ce que je fais de mal, ou qu'est-ce que je fais pas
Mais c'est exactement ça.
Ouais.
Mais du coup, être dans l'action, après, d'être dans l'action politique, c'est un level au-dessus, quoi. C'est compliqué, il faut avoir aussi les moyens de le faire. Et c'est ça, en fait, je pense qu'il faut commencer par ça, par trouver le moyen de s'intégrer dans cette politique. Alors effectivement, si l'idée de créer un parti politique est retenue, ça peut être effectivement une bonne clé et une bonne porte d'entrée, quoi.
Un parti, des mouvements, enfin regarde, il y a des mouvements tout le temps là, regarde Benoît Hamon, il perd son truc, il crée un mouvement, enfin pour les municipales, il y a des partis qui n'existaient pas du tout il y a un an, à Paris, alors c'est un truc multipartite porté par notamment la France Insoumise, donc moi dans mon arrondissement, j'habite dans le 11e, et c'était Pépitacar, il s'appelle Pépitacar,
ah, oui.
Et je crois que son programme était le seul où le mot féminisme, était écrit noir sur blanc. À vérifier, parce que peut-être que les écolos avaient aussi écrit ça, mais en tout cas, je veux dire, le mot, il n'était pas écrit, tu vois, en tout petit, en gris, à la fin d'un paragraphe. Enfin, tu vois, genre, c'était affiché plusieurs fois. Et moi, ça m'a fait wow. Enfin, tu vois, je me suis dit, oh, wow.
Enfin.
Tu vois, ouais, je me suis dit, il y a écrit. Enfin, tu vois, il y a une candidate qui écrit et qui revendique son féminisme et un parti qui porte une femme féministe qui le revendique. Et c'est dans le programme. Et je me suis dit, mais alors, pourquoi on n'a pas des députés féministes? Pourquoi, tu vois, avant de parler peut-être de candidats, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un parti féministe avec rien que ça, des députés? Et je me dis, mais moi, je signe, quoi. Pas pour l'être, hein, parce que moi, la politique, je ne sais pas le faire. Et franchement, pas mon truc du tout. Mais il y a plein de femmes dans les think tanks, des femmes dans les lobbies. Les lobbies, c'est de la politique. Hein. Bah ouais, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces think tanks féministes? Pourquoi, en tout cas, il y en a peut-être, mais moi je ne les connais pas. Pourquoi on n'a pas tous ces lobbies féministes? Je veux dire, des femmes qui savent comment on parle aux politiques pour faire passer des lois. Comme on a partout, comme on a au Parlement européen. Tu vois, les lobbies ont une force de frappe hallucinante. Et je me dis, ben ouais. Tu sais, en fait, il faudrait le faire et donner raison à tous ceux qui disent « Ah, les lobbies LGBTQI !» Enfin, ils disent même pas le « i » parce qu'ils savent pas ce que c'est. Ils disent « Les lobbies LGBT, les lobbies féministes, bah créons-les, tu vois. Comme ça, ils vont le dire et on sera « Bah ouais, grave !» Et alors, tu te plains contre les lobbies agroalimentaires, tu te plains contre les lobbies des produits laitiers, tu te plains contre les lobbies des hydrocarbures, tu te plains pharmaceutique, non? Tu dis quelque chose, tu vois? Non? Bon, bah alors, écoute, qu'est-ce que ça peut te faire qu'il y ait un vrai lobby féministe qui veut pousser des choses? Enfin, et ce combat qui est un combat juste, quoi, c'est ça que je trouve fou aussi, quoi. C'est encore aujourd'hui se faire traiter, entre guillemets, de militante, comme si j'étais militante pour la peine de mort, enfin, tu vois, comme si je défendais un truc complètement absurde et atroce et tout. Et aujourd'hui, on me dit, mais vous êtes, tu vois, on peut être journaliste et militante, ou bien, et votre militance, tu sais, genre, mais qu'est-ce qu'il y a, en fait, je me bats pour les droits des femmes, et donc, c'est pas bien, qu'est-ce qu'il y a, il faudrait que j'ai honte de me battre pour une cause objectivement juste, parce que là, on est quand même dans l'objectivité, hein, se battre pour que des êtres humains soient traités de manière égale, voilà, c'est compliqué de dire que c'est pas juste. Politisons-nous, tu disais, il faut savoir le faire, avoir les moyens de le faire, mais moi je pense qu'il y a plein de femmes en France qui ont tout à fait les moyens de le faire, que ce soit des moyens, soit des moyens financiers, que ce soit des moyens, ces femmes qui ont des privilèges, qui ont accès à des sphères politiques, qui sont éduquées, qui ont un bagage socioculturel qui leur permet d'évoluer dans ces sphères-là, qui ont le pognon, qui ont les contacts, qui ont le réseau, il y en a plein des femmes, je pense, en France, qui ont ces trucs-là. Est-ce qu'elles ont envie ? C'est ça la question. Est-ce qu'elles ont envie de se positionner comme ça ? Parce que c'est difficile aussi. Hein. Je ne dis pas que c'est évident parce qu'on s'en prend plein la tronche. Hein. Je pense que quand tu es féministe, tu t'en prends plus dans la tronche que quand tu fais partie du lobby des hydrocarbures. Hein. C'est étrange quand même. Donc ouais, il faut avoir les épaules aussi. Il faut se dire ok, je vais me prendre plein de trucs dans la gueule, mais je le fais parce que je sais que mon combat est juste et il faut bien qu'on se lance. Mais comme les femmes qui sont les premières à dénoncer les agressions sexuelles, tu vois, d'un réalisateur, d'un chef cuisinier, un truc, c'est souvent les femmes qui te disent moi je veux bien parler, mais je serai pas la première. Et tu sais très bien que la première, même la deuxième et la troisième, tout, hein, quand le mec est connu, il faut avoir un sacré courage. Hein.
Oui.
Et là, c'est pareil pour moi. Tu peux le dire, il faut avoir du courage pour. Tu vas te recevoir des menaces de mort, tu vas peut-être te faire agresser. Ça fait tous les noms, ça va être horrible. Hein. C'est un sacerdoce, la politique, je pense que. Mais je pense que vraiment, il y a des femmes qui ont tous les genres de moyens de se lancer.
Et puis, il y en a même qui se sont déjà lancées, à l'image de Clémentine Autain ou Laurence Rossignol, qui, depuis leur siège de députée, font entendre des revendications pour les droits des femmes. En attendant que les autres le fassent, engageons-nous.